Chers collègues, permettez-moi d'abord, après le discours inspiré de Jean-Marie Lène, de vous proposer, sur un thème un peu provocant, une présentation pour laquelle je n'ai aucune compétence particulière et que vous pouvez considérer comme un billet d'opinion dans la Macédoine de cet ensemble. J'ai pourtant eu au départ l'approbation de François Cuzin pour vous faire cette présentation-là. Au mois de janvier dernier, j'ai discuté avec François Cuzin de ce que nous allions dire. François Cuzin était déjà décidé parce qu'il avait une autre obligation pour le moment du colloque et il était en train de décider de ne pas y participer. Il me disait « je serai en Corse à parler épigénétique et je préfère parler science plutôt que d'aller au colloque de l'IUF ». On nous avait demandé d'orienter nos présentations sur l'histoire de l'IUF et sur les souvenirs que nous pouvions avoir sur les effets de la participation à l'IUF sur notre itinéraire scientifique. François Cuzin me disait dans un email que, à son avis, l'IUF avait été un beau coup politique pour secouer la léthargie et dénoncer la médiocrité moyenne des universités. Fin de citation. Il ajoutait que l'effet que ça avait eu sur son itinéraire scientifique de participer à l'IUF, qu'il a dirigé à un moment donné, il disait que l'effet sur son itinéraire avait été marginal. Je le cite encore, « une certaine reconnaissance, pas plus ni moins que d'être élu à l'Académie ou à l'EMBO ». Fin de citation. Et puis il ajoutait, « je trouve ton titre provoque, bienvenue ». J'ai donc été encouragée à vous provoquer. Quelle était ma raison ? Je suis dans mon préambule, je ne suis pas encore dans ma démonstration. Quelle était ma raison de proposer un tel sujet ? Eh bien, quand je suis devenue membre de l'IUF, c'était la seconde promotion, 1992. J'ai été à l'IUF de 92 à 97, puis j'ai été renouvelée en 97. Mais je n'ai pas terminé cette période-là parce qu'en 2002, je suis passée au Collège de France. Lorsque je suis devenue membre de l'IUF, pour moi, ça a été une surprise parce qu'on ne savait pas encore très bien ce que c'était que l'IUF. Mais je n'ai pas eu le sentiment d'une anomalie. À l'époque, je pensais, sans y avoir du tout réfléchi, j'étais professeure à Nanterre. Et je pensais que le rapport des sexes à l'IUF devait être celui que j'observais à l'Université de Nanterre, où je m'imaginais que c'était un rapport 50-50. J'avais connu précédemment à Créteil une ambiance très différente, car je fréquentais aussi la faculté de médecine à Créteil. J'exerçais un peu de médecine en même temps que j'enseignais la philosophie des sciences. Et je savais qu'à la faculté de médecine de Créteil, il y avait une seule femme chef de service sur 120 professeurs. Et elle m'avait fait la confidence qu'elle avait beaucoup souffert de cette situation. Cela dit, en médecine, il y avait quand même beaucoup de femmes dans les services, pas au premier poste. Et lorsque je me suis retrouvée à Nanterre, en 87, venant de Créteil, j'ai constaté que le rapport homme-femme avait l'air normal. C'est tout. Je n'avais pas cherché quel était exactement ce rapport. Par contraste, lorsque je suis passée au Collège de France, alors, d'abord, il y a eu un contact préliminaire qui m'a laissé pleine d'incrédulité parce qu'à mes yeux, c'était un repère masculin. Et ensuite, lors de la première assemblée des professeurs à laquelle j'ai participé au Collège de France, j'étais la seule femme. Et je vous garantis que je n'ai pas ouvert la bouche. J'étais une anomalie. À l'IUF, je n'avais pas été une anomalie. Bien sûr, à l'époque où j'ai abordé l'IUF, je ne savais pas exactement ce que c'était. Et à cette époque-là, on ne présentait pas soi-même sa candidature. Au début de l'IUF, on était présenté par deux personnes. Dans mon cas, ça a été Jean-Claude Pariente et Alain de Montefiore, un Français et un étranger. Montefiore était professeur à Oxford. Et j'étais dans un certain flou sur ce que ça allait me donner. Mais la nouvelle à Nanterre, à l'université, que j'étais devenue membre de l'IUF, a entraîné un événement tout à fait inattendu. Oui, il faut dire qu'à cette époque, l'université Paris 10 traversait une ère plutôt stalinienne, dans laquelle tout le monde il était égal, pas de cours magistraux, seulement des travaux dirigés, et les professeurs font autant d'heures de cours, enfin de travaux dirigés, que les maîtres de conférence. Aucune différence. Comme en plus mon salaire, quand je suis passé de maître de conférence à Créteil, à professeur à Nanterre, seconde classe, mon salaire n'a pas du tout changé, il n'y avait pas lieu de voir aucune différence entre maître de conf et professeur. Mais j'ai reçu une lettre manuscrite du président de l'université de Nanterre, et pas une toute petite lettre, une grande lettre manuscrite me félicitant de mon élection à l'IUF. J'étais reconnue, j'existais. Et ça, pour moi, ça a été un événement véritablement presque traumatique. Je voulais donc initialement célébrer l'IUF comme une institution jeune, ouverte, et qui reconnaissait la place des femmes dans l'enseignement supérieur. Fin de mon préambule. Je m'étais trompée. Et je vais vous montrer en trois points successifs en quoi je m'étais trompée et en quoi j'essaye de me débattre avec ça maintenant. Donc, premier point, je me trompais. Les femmes à l'Institut universitaire de France ne sont pas du tout 50% de l'effectif. J'avais essayé de compter les hommes et les femmes en chargeant moi-même la liste des membres présents et honoraires, mais je ne savais pas si les Dominique, les Claude, tout ça, étaient des hommes ou des femmes, donc je n'ai pas pu compter moi-même. J'ai donc eu recours au secrétariat qui très gentiment m'a donné la statistique officielle du rapport des sexes, mais seulement pour 17 promotions sur 20. Donc mon échantillon, c'est 1991-2008. Eh bien, dans cette période de 17 années, sur un total de 825 personnes recrutées à l'IUF, il y a 668 hommes et 157 femmes. Si on regarde comment ça se partage entre sciences dures et sciences humaines et humanités, du côté des sciences dures, les femmes forment 9% de l'effectif. Et du côté des sciences humaines, sociales et humanités, elles forment 31%. Mais si on prend l'ensemble de l'IUF globalement, il n'y a jamais au cours de cette période que 19% de femmes. 19% de femmes, c'est comme à l'Assemblée nationale, où il y a 18,5% de femmes, et on critique les politiques pour ne pas promouvoir la parité. Au Parlement européen, je l'ai appris très récemment, il y a 35% de femmes. Alors l'IUF est au niveau de l'Assemblée nationale française. Il paraît que les statistiques tout à fait récentes sont un peu plus favorables aux femmes. Non, pas trop. Alors, J'ai essayé de compter, je me suis dit, il y a peut-être une différence entre les seniors et les juniors, parce que les seniors appartiennent à des générations où les femmes travaillaient peut-être beaucoup moins, en réalité, et donc il y a probablement de meilleurs chiffres chez les juniors. C'est un petit peu vrai, mais pas tellement. Chez les seniors, sur un effectif total de 280... Non, sur l'effectif total, vous trouvez du côté des hommes 294 et du côté des femmes 53. Dans ce groupe des seniors, du côté des sciences dures, 8% de femmes, 8% de femmes, du côté des sciences dures qui inclut la médecine. Et du côté des sciences humaines et des humanités, 24% de femmes. Un quart, pas une moitié, hein, même du côté des sciences humaines et des humanités. Pour les juniors, les chiffres sont un petit peu plus encourageants. L'effectif est de 374 masculins, 104 féminins. Du côté des sciences dures, 10% de femmes, un petit peu mieux que chez les seniors. Et du côté des sciences humaines et sociales et des humanités, 36%. Cette fois, on est un peu au-dessus d'un tiers. Alors, bien sûr, au Collège de France, c'est pire. Du moins, je croyais que c'était pire, quoique tout récemment, j'ai vu... pendant l'assemblée des professeurs, qu'il y avait à la table de l'assemblée, professeurs actifs, 4 femmes sur 42, 43 professeurs. Donc on est presque à 10% maintenant. Et c'est des seniors, le Collège de France. Alors j'ai fait un compte un peu plus précis pour le Collège de France sur 20 ans, sur les dernières 20 années. Il y a eu pendant ces dernières 20 années 63 recrutements, dont 6 femmes. 9,5%. Ah, c'est pas si mal. C'est pas si mal si on voit que depuis la création du Collège de France au XVIe siècle, 1530 exactement, jusqu'en 1973, il n'y a pas eu de femmes du tout, pendant donc 450 ans. La première femme, vous savez, c'était Jacqueline de Romilly, qui est entrée en 1973. La durée de fonctionnement des femmes au Collège de France est à peu près la même que celle des seniors à l'IUF, une dizaine d'années, puisqu'elles sont recrutées à 59-60 ans, et elles durent jusqu'à 70. Alors, nous avons eu aussi au Collège de France, sur une chaire annuelle, mais sur une chaire annuelle seulement, une junior, Esther Duflo. Alors, j'ai jeté un coup d'œil oblique aussi du côté de l'Académie des sciences pour comparer. À l'Académie des sciences à l'heure actuelle, sur 255 membres, il y a 233 hommes et 22 femmes, soit 8,6%. Et bien ça, l'Académie des sciences et sciences dures, ça c'est mieux que le pourcentage IUF senior sciences dures. Donc l'IUF ne se distingue pas particulièrement par sa générosité à enrôler des femmes. Bon, je note, pour en revenir à l'Académie des sciences, que Marie Curie, après avoir eu 2 prix Nobel, en 1903 celui de physique, en 1911 celui de chimie, n'a pas été élue à l'Académie des sciences, où elle fut candidate en 1911, c'est-à-dire l'année de son second prix Nobel. Par contre, en 1922, elle fut élue membre associé de l'Académie de médecine, à l'initiative de l'Académie de médecine, alors qu'elle n'était pas médecin. Donc notre Académie des sciences était particulièrement peu généreuse. Mais il y a plus récent, du côté de l'Académie des sciences, Lorsqu'en 2008, le prix Nobel de physiologie médecine a été décerné à deux Français pour la découverte du virus de l'immunodéficience humaine, le virus HIV, eh bien, on s'est rendu compte que M. Montagnier était membre de l'Académie des sciences et que Mme Barré-Sinoussi n'était pas membre. On l'a élue précipitamment. On ne cesse de dire, à l'Académie des sciences comme ailleurs, il faut présenter des candidats femmes, il faut élire des femmes. On oublie les femmes. Et les femmes, où sont-elles ? Eh bien, encore maintenant, à une élection récente à l'Académie des sciences, il n'y avait pas ou peu de candidatures féminines. On n'y pense pas. C'est un système de cooptation. On ne pense pas à présenter des candidatures féminines. Je vais introduire ici, pour terminer mon premier point, une petite note que j'intitule « La femme cachée ». Et dans laquelle j'aurais voulu citer avec exactitude, mais je n'ai pas retrouvé le texte, une sorte d'algarade proférée par Françoise Héritier, un jour où elle entendait ses collègues du Collège de France louer les services de leurs épouses qui les déchargent de multiples tâches. Françoise Héritier leur avait dit, si je me souviens bien, mais je cite de mémoire, « Vous, vous êtes deux, on vous décharge de multiples tâches. Moi, j'assure les deux, j'assure mes cours, j'assure mes séminaires, j'assure ma recherche et j'assure l'intendance. » L'objet de ma petite note est de faire l'observation qu'il n'y a pas de réussite d'un chercheur ou de quelqu'un qui est très engagé dans son travail scientifique, homme ou femme, sans que quelqu'un assure l'intendance. Car il faut bien se nourrir, se vêtir, nettoyer ses vêtements, repasser, faire le ménage, faire la déclaration d'impôt, etc., etc. Et ce dont, d'après Françoise Héritier, ce dont ses collègues se félicitaient, c'était de la répartition des rôles qui faisait qu'ils étaient déchargés de ces contingences et libérés pour leur tâche de recherche. Ils admettaient donc que le rôle de la femme est d'assurer l'intendance. Et l'on peut prétendre que, quand on paye un chercheur actif, productif, qui se donne pleinement à son travail, si l'intendance est assurée par sa femme, on paye en fait deux personnes à la fois, par le même salaire. Bien sûr, vous me direz que le modèle auquel je fais allusion, c'est le modèle des années 50 et 60, et que ce modèle est en train de s'effacer. Quoique, en tout cas, ce modèle a été théorisé, et une partie de la conviction que je me suis faite, c'est que cette théorisation reflète des traits extrêmement profonds de nos cultures. Alors, pour montrer comment ça a pu être théorisé par quelqu'un qui a été professeur au Collège de France, c'est Charles Nicolle. Charles Nicolle était un pastorien qui a très longtemps dirigé l'Institut Pasteur de Tunis et qui a été élu au Collège de France en fin de carrière. Il a écrit en 1932, le livre est paru en 1932, un ouvrage qui s'appelle « Biologie de l'invention », dans laquelle il s'efforce d'exprimer en termes biologiques ce que c'est qu'un inventeur ou un savant découvreur, quelqu'un qui, dans sa recherche, quelqu'un dont la recherche porte des fruits, quelqu'un qui a du succès dans sa recherche. Il dit que le bon découvreur a du génie, et le talent particulier du chercheur, il l'appelle le génie. Alors, je cite brièvement Charles Nicolle. Après avoir caractérisé le chercheur comme homme de génie, il poursuit, je cite, « C'est le moment de rendre hommage à l'abnégation des femmes d'inventeurs. Compagnes du génie, partageant ses illusions, ses peines, elles sacrifient leur goût, leur liberté, leur personnalité à l'œuvre commune. Elles se font esclaves de la chimère et de plus les esclaves de l'homme. On ne saurait trop admirer ces femmes, amantes fidèles, consolatrices dans l'épreuve. Leur part, pour n'être pas la plus éclatante, n'en est pas moins fertile. » Fin de citation. On brûle alors de poser la question à Charles Nicolle. Mais il y a quand même eu Marie Curie, il y a des femmes inventeurs, il y a des femmes qui ont du génie. Pensez-vous, à la question qu'il pose lui-même, la femme peut-elle faire œuvre de génie? Voici ce qu'il dit, sans embâge, sans parti pris, fermement, je réponds non. Il pense que si la femme se met à suivre la même voie que l'homme de génie, c'est un germe de mort pour l'espèce. Ça veut dire qu'elle ne fera plus d'enfants. Mais ça, dans les années 30, ça se comprend encore. À l'époque actuelle, où on commence à se dire qu'il ne faut pas faire trop d'enfants parce qu'on dépense les ressources de la planète au-delà de ce qu'elles peuvent donner, c'est moins le devoir de la femme d'enchaîner les naissances. Mais il ajoute que une femme qui suivrait le chemin de l'inventeur, c'est-à-dire qui voudrait faire preuve de génie, il dirait, elle a voulu vivre sa vie, c'est précisément sa vie qu'elle n'a pas vécue, elle a voulu vivre la vie de mâle et ne l'a pas vécue davantage. Donc, ce livre n'a suscité aucune réaction défavorable. Il exprime donc quelque chose de très profond dans notre culture, la place de la femme et d'assurer l'intendance. J'en viens à mon second point. J'intitule mon second point « Ceci n'est pas une complainte ». Nous n'avons pas à déplorer le fait que ce soit dans notre culture, nous avons à le constater. Et constater que c'est à l'heure actuelle un souci mondial que de trouver aux femmes une place différente de celle qu'elles ont occupée jusqu'ici. L'Organisation des Nations Unies, dans un rapport d'octobre 2010, signale la persistance à travers le monde des inégalités entre hommes et femmes et fait la réclame pour le Gender Inequality Index, c'est-à-dire l'index d'inégalité des sexes. Un index chiffré qui est une mesure composite formée de trois mesures différentes, une relative à la santé et en particulier à la santé reproductive, une relative à la formation des capacités, vous savez ce qu'on appelle empowerment à l'heure actuelle, et une qui concerne le marché du travail. C'est un indice qui varie entre 0 et 1, comme les indices de probabilité. À 0, ça veut dire que l'égalité entre hommes et femmes est parfaite. À 1, qu'elle n'existe pas du tout. Et les pays sont notés avec un chiffre qui montre à quel point ils sont entre les deux. La France est 14e sur 169 nations classées, donc c'est pas mal. On est dans un bon rang, on n'a pas à se plaindre. Et notre index est de 0,26, c'est-à-dire qu'il y a encore un quart du chemin à faire pour arriver à zéro, pour arriver à l'égalité complète. Bon, je n'entre pas dans le détail de cette mesure, mais en suivant le rapport de l'ONU, je suis allée regarder ce qui concerne l'accès à l'enseignement, l'accès au travail, le partage du travail domestique, etc., dans l'idée de trouver les explications que l'on donne actuellement ou que l'on cherche actuellement de la persistance de ces inégalités alors même qu'on lutte contre ou qu'on pense lutter contre. En ce qui concerne l'accès à l'enseignement primaire et secondaire, en Europe, il n'y a pratiquement aucune différence entre garçons et filles. Nous sommes dans une très bonne situation en Europe, car de l'autre côté de la Méditerranée, selon des chiffres donnés par l'UNESCO, la différence pour l'accès à l'enseignement primaire ou secondaire, et surtout primaire, la différence entre filles et garçons est de plus de 10% en Algérie et en Égypte et de plus de 20% au Maroc, malgré tous les efforts qui, paraît-il, sont réalisés au Maroc. Mais il y a pire au centre de l'Afrique, en Asie du Sud. En Asie du Sud, 50% des filles ne sont pas scolarisées. En Inde, un garçon sur quatre est analphabète et une fille sur deux, donc le double d'analphabète chez les filles. Les chiffres de l'Inde sont particulièrement désolants, alors que la Chine, à côté, a des chiffres excellents, bien meilleurs que les Français. En Chine, 3% d'analphabètes chez les garçons et 4% chez les filles, sur toute la population. Je vous rappelle, on l'a vu dans les journaux, que l'illettrisme en France, mesuré sur des adultes ayant été scolarisés, touche 9% de la population adulte. 9%, c'est énorme. Alors, je veux arriver à l'IUF, donc il faut monter plus haut que le bac. En Europe, les filles réussissent au bac aussi bien que les garçons et avec autant de mentions. Donc jusque-là, l'égalité est parfaite, c'est même un peu en faveur des filles. Les filles sont aussi... Alors, dans le système français, il y a des classes préparatoires et il y a l'université. Les filles sont aussi nombreuses que les garçons en classe préparatoire. Par contre, elles sont moins nombreuses que les garçons dans les classes scientifiques et plus nombreuses que les garçons dans les prépas littéraires. Bon, mais c'est comme ça. À l'université, 58% de filles au total. Donc les filles sont majoritaires à l'université en France. Alors bien sûr, là aussi, 30% de filles du côté des sciences, 75% du côté des lettres et des sciences humaines et sociales. Mais jusque-là, il n'y a pas d'écart, ou s'il y a un écart, il est plutôt en faveur des filles. Il y a plus de filles à l'université que de garçons. L'écart commence à se renverser au grand concours et au niveau du doctorat. Il y a plus de filles à l'université que les garçons, mais il y a plus de doctorats garçons que de doctorats filles. C'est l'âge où font les bébés. Mais pour les grands concours, on peut penser que ce sont des filles qui se sont donné les moyens. Et j'ai comparé les pourcentages à la sortie de l'École nationale d'administration et les pourcentages à la sortie des concours des instituts régionaux d'administration. Bien, il y a quelque chose de tout à fait qui résonne bien là. À la sortie de l'École nationale d'administration, il y a entre un tiers et un quart de filles, donc une grosse majorité garçons. Tandis qu'au concours des instituts régionaux d'administration, qui sont des concours de niveau plus bas, les admis sont 60% des femmes. Donc les femmes vivent plus bas. Visent plus bas. On peut dire qu'elles sont peut-être simplement plus modestes ou qu'elles ont des capacités plus limitées. On ne sait pas. Inégalités au travail. L'Observatoire des inégalités, vous pouvez vous y reporter sur Internet, c'est très riche. L'Observatoire des inégalités signale une égalité devant le chômage entre femmes et hommes, à peu près. Mais du côté de ceux qui travaillent, ce qui est flagrant est l'inégalité des salaires. Même si les écarts de salaire ont diminué depuis 1950, en Europe, globalement, les hommes gagnent 30% de plus que les femmes. Globalement. En France, 37% de plus. Mais ce n'est pas le cas pour l'éducation nationale, ce n'est pas le cas pour la recherche. Donc nous n'avons pas cette explication-là pour ceux qui entrent à l'IUF ou au Collège de France. Une autre explication très en faveur à l'heure actuelle, c'est le partage inégal du travail domestique, puisque selon l'Observatoire des inégalités, les hommes consacrent 2 heures par jour, 7 jours par semaine, aux travaux domestiques, et les femmes 3 heures et demie par jour. 3 heures et demie par jour, ça fait 25 heures par semaine, c'est pas négligeable. Mais c'est relativement peu, donné que nous sommes aidés par toutes sortes de robots maintenant, et donné que dans l'histoire de notre espèce, le temps consacré à des travaux de survie était beaucoup plus important qu'il ne l'est maintenant. Le temps de préparer la nourriture, le temps de préparer les vêtements, etc., quand ça se faisait à la main, tout ça prenait beaucoup plus de temps. On peut dire que notre espèce a un passé d'exploitation à plein temps de la femme pour ces tâches-là. D'exploitation à plein temps de la femme. Et ces tâches-là ne sont habituellement pas rémunérées. Et un passé de dépendance à l'égard de celui qui a accès au marché, à l'accès à l'argent et qui ramène l'argent à la maison. Cette position est une position d'esclavage. Nous sommes sortis de cette position d'esclavage, encore que, même aujourd'hui, on puisse dans certains cas parler d'un esclavage conjugal. Mais c'est devenu beaucoup plus une trace. Je conclus de cette recherche, qui n'est pas une recherche scientifique, je conclus de cela que il y a eu des progrès, les progrès sont très lents, il n'y a pas une cause unique, on n'arrive pas à mettre le doigt sur une cause qui, lorsqu'on la combat, permet de régler la question. Et j'en tire l'idée que nous sommes tous culturellement formatés pour ralentir cette évolution, parce que nous sommes tous encore marqués par les éléments de notre culture qui nous font placer la femme dans une position où elle assure l'intendance. J'ai lu aussi, pour préparer cette intervention, dans la revue Études, l'article d'un jésuite qui parle du rôle des femmes dans l'Église catholique et qui salue le rôle des femmes comme une ressource extrêmement efficace et dévouée à l'heure actuelle, parce qu'il y a de moins en moins de prêtres hommes, mais ressource invisible. Ce marquage culturel, je l'ai moi-même choisi. Quand je suis entrée à l'École normale supérieure, j'avais dit que je voulais faire philosophie. Et mon père m'a interdit de choisir philosophie. Pourquoi ? C'est simple. Y a-t-il des philosophes femmes ? Non, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Quand vous allez à l'université faire de la philosophie, les auteurs qu'on vous fait lire sont tous des hommes. Donc c'est une voie sans issue pour une femme. Mon père insistait beaucoup pour que je choisisse lettres classiques. À la rigueur, le latin et le grec, pour une femme, ça peut. Hein. Pour mon père, c'était une évidence. Tu vas te casser la figure. Hein. Et je l'ai longtemps cru. Je le crois même encore. Je veux dire que j'ai senti moi-même ce formatage par une idéologie qui vient du fond des siècles. J'en arrive à mon troisième point. Que donne l'IUF sur ce terrain du rapport entre hommes et femmes ? Et je vais essayer une comparaison avec le Collège de France. La décharge d'enseignement et le financement d'activités de recherche, un financement généreux, donne du temps. C'était l'intention des créateurs de l'IUF. Et c'est justement ce dont une femme a besoin. Donc, à première vue, l'IUF, c'est le paradis sur terre pour une femme. Ma propre expérience de l'IUF a été que la décharge d'enseignement n'est appréciable que dans la mesure où elle procure une situation où on a moins de copies à corriger ou moins de directions de travaux, car ce sont celles-là les tâches chronophages. Sinon, pour le contenu des cours, d'abord, à l'université, la possibilité de se répéter dans ces cours. Ensuite, le fait que le public étudiant est un merveilleux public, un public très stimulant, très attachant, tout cela confère à l'activité d'enseignement un grand confort, c'est très gratifiant. Et lorsqu'on entre au Collège de France, on sent la différence de public et... Bon, je vais expliquer pourquoi. En fait, je pense que la situation dans laquelle on enseigne et fait de la recherche en même temps est bien meilleure que la situation du chercheur CNRS ou INSERM. La recherche à temps plein ne me paraît pas du tout l'idéal. Donc là-dessus, l'IUF, c'est précieux parce que ça vous conserve une part d'enseignement et que ça vous donne la possibilité de la recherche. Quant au financement qui permet cette recherche, mon expérience, mais c'était l'expérience du tout début de l'IUF, a été que le financement était fort généreux, mais qu'on n'arrivait pas à l'utiliser. À Nanterre, je n'ai jamais réussi à dépenser mon argent. Quand de Nanterre, je suis passée à Paris 1, j'ai fait transférer mes fonds IUF à Paris 1. Là, j'ai pu dépenser cet argent un peu, pas tout, hein, mais à des conditions, Léonine, à des conditions extrêmement compliquées. J'espère que ça s'est amélioré pour vous maintenant. Non ? Pas tant que ça. Hein. Donc, c'est très bien d'avoir de l'argent, mais quand on n'arrive pas à le dépenser, c'est frustrant. Hein. Alors, en contraste avec ça, ce que j'ai apprécié au Collège de France, c'était les crédits de chaire. Au premier abord, les crédits de chaire très inférieurs aux crédits de l'Institut universitaire de France, minables. Mais on comprend vite que d'abord, on peut l'utiliser comme on veut. Et d'autre part, quand on a un projet précis, on peut en plus solliciter une subvention ciblée au Collège de France. Donc, la dépense est beaucoup plus simple. Une faille que j'ai ressentie très fort au Collège de France et qui est ressentie du côté des littéraires, c'est la difficulté d'accès aux banques de données informatisées. Le Collège de France est une institution de taille limitée. La souscription de l'accès aux bandes de données est chère et nous autres littéraires n'avons jamais eu de facilité. Ou alors, il fallait que nous payions nous-mêmes. Et sur nos crédits de chaire individuels, c'est absolument impossible. Alors, bien sûr, j'ai eu des trucs. J'ai utilisé l'entrée à l'Université libre de Bruxelles de l'un de mes assistants pour les textes plutôt côté sciences humaines et sociales. Et pour les sciences biologiques, j'ai pu de temps en temps utiliser les facilités qu'ont les biologistes, mais j'ai aussi utilisé le code secret d'un camarade à moi qui a un accès par l'INSERM. Hein ? Donc ça, c'est une faiblesse, et je pense que les universités sont en grand progrès là-dessus. Les universités, maintenant, vous offrent l'usage des banques, l'accès aux banques de données. Maintenant, la magnificence du Collège de France, ce que ça m'a donné et que l'université ne donnait pas, ça a été qu'au meilleur de ma période, j'ai eu 3 personnes sous mes ordres pour m'aider complètement, temps plein. Une secrétaire ou un secrétaire, un atter, assistant, et un maître de conférence. Ça, l'IUF ne le donnait pas. L'université ne le donnait pas du tout. Et il me semble que cette intendance qu'on vous prête, ce personnel d'intendance, vous décuple la possibilité d'entreprendre. Par contre, au collège, l'obligation d'enseigner la recherche en train de se faire devant un public qui est tout public, au niveau à la fois et niveau tout public par ailleurs, c'est une responsabilité, un stress même, j'ai trouvé, beaucoup plus lourd que ce qu'on rencontre à l'université. Dans la mesure où au Collège de France, en principe, on n'a pas le droit de se répéter d'une année à l'autre. On doit faire un cours complètement neuf. Et cette responsabilité a été accrue par la mise en ligne des cours et la possibilité de les podcaster de l'autre côté de la Terre. Ces cours, par ailleurs, au Collège de France, ne sont pas vraiment des cours de formation. Ce sont plutôt des cours de monstration, à mon avis. C'est-à-dire que vous ne délivrez pas de diplôme, vous ne vérifiez pas ce que les gens ont compris, il n'y a pas de retour, vous montrez. Alors, j'en tire la conclusion provisoire que la capacité d'entreprendre a toujours, enfin depuis 68 sans doute, la capacité d'entreprendre est bridée à l'université par la nécessité où le chercheur et forcé de tout faire soi-même, faire ses photocopies. Enfin, c'est ce que j'ai vécu, moi, faire ses photocopies soi-même, faire ses ponts de commande soi-même, faire lui-même ses courriers pour annoncer les séminaires, etc. Et quand j'étais à l'université, j'enviais la belle infrastructure des unités INSERM ou CNRS, qui avait secrétaire, documentaliste, enfin tout le personnel qui permettait de faire une recherche sans avoir les tâches ancillaires à remplir. Le personnel des universités, mais j'ai quitté l'université en 2000, le personnel des universités m'avait paru très dévoué, mais très insuffisamment formé, et pas assez nombreux, pas du tout assez nombreux. Donc, il me semble que la chance de ceux qui sont à l'IUF est d'avoir à l'université des conditions idéales de travail si l'université se mettait à avoir des infrastructures qui les soutiennent. C'est vraiment le point crucial, me semble-t-il. C'est peut-être là qu'il faut bagarrer. Conclusion générale. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je ne pense pas que ces inégalités hommes-femmes que nous constatons et qui nous font désespérer quelquefois puissent être réduites du jour au lendemain par une révolution. C'est quelque chose qui est le résultat d'une évolution, d'une transformation lente, mais qui a une très grande portée car elle reflète un tournant dans l'évolution de notre espèce, à un moment où notre espèce est menacée par sa propre expansion et par ses propres abus des ressources qu'elle possède sur la Terre. Là, il est nécessaire maintenant de réfléchir au nombre d'enfants qu'on fait, à la manière dont on vit. Et cela me semble avoir, entre autres résultats, le fait de rendre les femmes plus disponibles, parce qu'elles ne sont plus urgentes pour la survie, rendre les femmes plus disponibles et donc rendre les femmes susceptibles peu à peu d'envahir toutes les professions qu'elles n'avaient pas. Je conclurai par une autre idée qui est celle du président actuel du Parlement panafricain, Idriss Ndele Moussa, un Tchadien francophone, qui, dans un bref courrier envoyé à un journal, dit que actuellement, dans les pays qu'il connaît, c'est-à-dire les pays d'Afrique, les femmes tiennent une grande partie du commerce, une grande partie de l'agriculture, une grande partie de l'éducation, mais ce ne sont pas elles qu'on finance. Les crédits de financement sont donnés à des hommes. Et sa conclusion, je le cite, c'est « La femme n'a pas de lobby assez fort ». Donc elle devrait faire du lobbying. Je vous laisse avec ça. Je ne suis pas sûre si ça nous concerne. Je ne suis pas sûre si c'est une bonne idée. Mais je constate tout de même que l'invisibilité des femmes est plus grande que leur prétendue absence. Elles ne sont pas absentes, elles sont en partie invisibles. Quand je disais qu'à l'Académie des sciences, on n'y pense même pas à présenter des candidatures de femmes. Et ensuite, quand on fait les élections, si on n'a que des candidatures masculines, on élit que des hommes. Mais il faudrait penser à chercher les femmes, et elles sont certainement moins visibles. Ce manque de visibilité est un handicap. Peut-il être rattrapé par un lobbying spécial, ça ? Voilà, je vous remercie.